Nick Dune. Trois jours après. La police n'allait pas retrouver Amy, à supposer que quelqu'un désire qu'on la retrouve. Ça, au moins, c'était clair désormais. Toutes les étendues vertes, bleues et marrons avaient été fouillées. Des kilomètres boueux du fleuve Mississippi, toutes les pistes et sentiers de randonnée, notre triste série de bois clairsemés. Si elle était vivante, quelqu'un allait devoir la rendre. Si elle était morte, la nature allait devoir la restituer. C'était une vérité palpable, comme un mauvais goût sur le bout de la langue. Quand je suis arrivé au QG des volontaires, je me suis aperçu que tout le monde en était conscient. Un manque d'énergie, un sentiment de défaite planait sur les lieux. Je me suis approché, désœuvré, de la table des pâtisseries et j'ai essayé de me convaincre d'avaler quelque chose. Un pain au raisin. Je crois qu'il n'existe pas d'aliment plus déprimant que le pain au raisin. Une pâtisserie qui semble rassise en sortant du four. Je dis toujours que c'est le fleuve, disait un des volontaires à son pote, en piochant dans les pâtisseries avec ses doigts sales. Juste derrière la maison du mec, t'imagines plus facile? On l'aurait retrouvé dans un tourbillon dans ce cas, une mèche de cheveux, quelque chose. Pas si elle a été découpée, les jambes d'un côté, les bras de l'autre, le corps a pu suivre le courant jusqu'au golfe, jusqu'à Tunica au moins. Je me suis écarté avant qu'il ne me remarque. Un ancien prof à moi, M. Coleman, était assis à une table, penché sur le téléphone du numéro vert. Il notait des informations. Lorsque j'ai croisé son regard, il m'a fait signe qu'il avait affaire à un cinglé. Il a tracé un cercle autour de son oreille avec son index, puis désignait le téléphone. Il m'avait accueilli la veille en m'expliquant « Ma petite fille a été tuée par un chauffard ivre alors. » Et nous avions échangé quelques murmures et tapes dans le dos maladroites. Mon portable a sonné, celui avec la carte prépayée. Je n'arrivais pas à décider où le cacher, alors je le gardais sur moi. J'avais appelé et on me rappelait, mais je ne pouvais pas prendre l'appel. Je l'ai éteint et j'ai parcouru la salle des yeux pour m'assurer que les Elliott ne m'avaient pas vu faire. Mary Beth tapait des SMS sur son BlackBerry qu'elle tenait ensuite à bout de bras pour pouvoir lire le texte. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est ruée vers moi à petits pas précipités, tenant le téléphone devant elle comme un talisman. « Memphis, c'est à combien d'heures d'ici ? » a-t-elle demandé. « Un peu moins de 5 heures en voiture ? Qu'est-ce qu'il y a à Memphis ?»«
Hillary Handy habite à Memphis, celle qui la harcelait au lycée. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence ?»
Je ne savais pas quoi dire. « Oui ?»«
Oui, Gilpin m'a envoyé promener aussi. » On ne peut pas autoriser une telle dépense pour quelque chose qui s'est passé il y a près de 20 ans. Connard! Ce type me traite en permanence comme si j'étais au bord de la crise d'hystérie. Il ne parle qu'à Rand, même quand je suis nez à nez avec lui. Il m'ignore complètement, comme si j'avais besoin de mon mari pour m'expliquer les choses, pauvre idiote que je suis. Connard!
La ville est fauchée, j'ai dit. Je suis persuadé que c'est vrai, ils n'ont pas le budget, Mary Beth.
Oui, eh bien nous aussi! Je suis sérieuse, Nick. Elle était complètement dingue, cette fille. Et je sais qu'elle a essayé de recontacter Amy plusieurs fois au fil des années. Amy me l'a dit.
Elle ne m'en a jamais parlé.
Qu'est-ce que ça coûte d'aller là-bas? $50 d'essence? Tu veux bien y aller? Tu as dit que tu irais, je t'en prie. Je suis incapable d'arrêter d'y penser tant que je ne saurais pas avec certitude que quelqu'un l'a interrogé.
Je savais que ça, au moins, c'était vrai, car sa fille souffrait de la même inquiétude obsessionnelle. Quand on sortait, Amy pouvait passer une soirée entière à se tracasser à l'idée qu'elle avait peut-être laissé le four allumé, en dépit du fait que nous n'avions pas fait la cuisine ce jour-là. Ou la porte était-elle bien fermée à clé? J'en étais sûr. Elle imaginait toujours le pire. Elle ne faisait pas les choses dans la demi-mesure. Parce que ce n'était jamais seulement que la porte n'était pas fermée à clé, c'était que la porte n'était pas fermée à clé et qu'il y avait des hommes à l'intérieur et qu'ils l'attendaient pour la violer et la tuer. Une couche de sueur s'est formée à la surface de ma peau, car soudain, les terreurs de ma femme avaient porté leurs fruits. Imaginez un peu l'atroce satisfaction de découvrir que toutes ces années d'inquiétude se révèlent enfin justifiées. Bien sûr, je vais y aller. Et en route, je m'arrêterai à Saint-Louis pour voir l'autre, Dessy. C'est comme si c'était fait. J'ai fait volte-face et j'ai commencé ma sortie théâtrale. J'ai fait 6 mètres et tout à coup, Stux est apparu de nouveau. Le visage encore amolli par le sommeil.
Il paraît que les flics ont fouillé le centre commercial hier, a-t-il dit en se grattant la mâchoire. Dans l'autre main, il tenait un donut glacé intouché. Une bosse en forme de bagel était visible dans la poche de devant de son pantalon corsaire. J'ai failli faire une blague. C'est une pâtisserie dans ta poche ou t'es juste content de...
Ouais, rien.
Hier, dans la journée. Ils y sont allés dans la journée, ces imbéciles. Il s'est baissé et a regardé autour de lui comme s'il craignait qu'on ne l'entende. Il s'est approché de moi.
La nuit, c'est là qu'ils sont là-bas. Dans la journée, ils sont au bord du fleuve où ils agitent leur drapeau.
Leur drapeau ?
Tu sais, ils s'installent aux sorties de route avec des panneaux « au chômage »,« besoin d'aide »,« de quoi payer ma bière », »,« n'importe quoi »,
a-t-il dit en promenant un regard circulaire sur la pièce.
« Ils agitent leur drapeau, mec !»«
Ok. » »«
La nuit, ils sont au centre commercial. »«
Dans ce cas, allons-y ce soir, ai-je fait. Toi, moi et qui voudra. »«
Joe et Mike Hillsam, ils seront partants. »
Les Hillsam avaient 3-4 ans de plus que moi. C'étaient les durs de la ville. Le genre de mec qui était né sans le gène de la peur, étanche à la douleur. Des sportifs qui passaient l'été en short, les jambes musclées, à jouer au baseball, à boire de la bière, à relever des défis étranges, faire du skateboard dans les fossés de drainage, escalader des châteaux d'eau à poil. Le genre de type qui se détachait du groupe, les yeux fous, un samedi soir d'ennui, et vous pouviez être sûr qu'il allait se passer quelque chose. Peut-être pas quelque chose de bien, mais quelque chose. Bien sûr que les Hillsam seraient partants.
Parfait, j'ai dit. On y va ce soir.
Mon téléphone a sonné dans ma poche. Je ne l'avais pas éteint correctement. Il a sonné de nouveau.
Tu réponds pas ?
Non.
Tu devrais prendre tous les appels, mon vieux, sans déconner.
Il n'y avait rien d'autre à faire de la journée. Pas de battue prévue, pas d'affichette à coller. Les téléphones étaient tous en main. Mary Beth a même commencé à renvoyer les volontaires. Ils restaient sans rien faire, à grignoter, désœuvrer. Je soupçonne Stux d'avoir embarqué la moitié de la table de viennoiserie dans ses poches en partant.
« Quelqu'un a des nouvelles des inspecteurs ?»
a demandé Rand. Mary Beth et moi avons répondu de conserve.
« Rien. »«
C'est peut-être bon signe, pas vrai ?»
a demandé Rand, les yeux pleins d'espoir, mais nous n'avons pas voulu le contredire.
« Oui, bien sûr. »«
Quand est-ce que tu pars pour Memphis ?»«
Demain. » Ce soir, avec mes amis, nous allons faire une autre fouille du centre commercial. Nous ne pensons pas que ça a été fait correctement hier.
Excellent, a dit Mary Beth. C'est des actions comme ça qu'il nous faut. Si on soupçonne que quelque chose n'a pas été fait correctement la première fois, on le fait nous-mêmes. Parce que je ne suis pas vraiment convaincu par ce qui a été fait jusque-là.
Rand a posé une main sur l'épaule de sa femme, un signe que ce refrain avait déjà été exprimé et entendu à de nombreuses reprises.
« Je voudrais venir avec vous, Nick, »
a-t-il dit.
« Ce soir, j'aimerais venir. »
Rand portait un polo bleu pastel et un pantalon olive. Ses cheveux formaient un casque sombre et brillant. Je me le suis imaginé en train d'essayer de faire ami-ami avec les frères Hillsam, faisant son petit numéro un peu désespéré de mec viril.
« Hé, je crache pas sur une bonne bière, moi aussi. Hé, elle est bien, votre équipe de sport, dans le coin ?»
Et j'ai senti une montée de nausée imminente.
« Bien sûr, Rand, bien sûr. »
J'avais 12 bonnes heures devant moi. On me restituait ma voiture. Une fois inspectée, aspirée et passée à la poudre à empreinte, je suppose. Aussi, je me suis fait déposer au commissariat par une volontaire âgée. Une de ces grand-mères pleines d'énergie qui semblait un peu nerveuse à l'idée d'être seule avec moi.
« Je dépose juste M. Dune au commissariat, mais je serai de retour dans moins d'une demi-heure, »
a-t-elle dit à une de ses amies.
« Pas plus d'une demi-heure. »
Gilpin n'avait pas ajouté le second mot d'Amy au dossier. Il était trop emballé par la petite culotte pour prendre cette peine. Je suis monté dans ma voiture, j'ai ouvert grand la portière, et tandis que la chaleur moite se dissipait, j'ai relu le deuxième indice de ma femme. « Regarde-moi, je suis folle de toi. L'avenir est tout sauf flou avec toi. Tu m'as emmené ici pour que je puisse t'écouter raconter tes aventures de petit garçon, jean cradingue et casquette. On emmerde les autres, pour nous ils sont largués, et volons un baiser comme de jeunes mariés. »
C'était Hannibal dans le Missouri,
la ville natale de Mark Twain, où je travaillais l'été dans mon adolescence, quand je traversais la ville déguisée en Huck Finn, avec un vieux chapeau de paille et un pantalon faussement loqueteux, en faisant des sourires canailles et en pressant les passants d'aller visiter le palais de l'ice cream. C'était le genre d'histoire qui font fureur dans les dîners, à New York du moins, parce que personne ne pouvait faire mieux. Personne ne pouvait jamais dire « Ah oui, moi aussi ». La casquette était une private joke. Quand j'avais raconté pour la première fois à Amy que j'avais joué le rôle de Huck, nous dînions au restaurant, nous en étions à la deuxième bouteille de vin, et elle était adorablement pompette. Elle arborait son grand sourire et les joues roses qu'elle avait quand elle avait bu. Penchée en travers de la table, comme si j'avais un aimant sur moi, elle ne cessait pas de me demander si j'avais toujours la casquette, si je voudrais bien porter la casquette pour elle, et quand je lui ai demandé pourquoi, au nom de tous les saints, elle s'imaginait que Huck Finn portait une casquette, elle a avalé sa salive et dit « Oh, je voulais dire un chapeau de paille », comme si ces deux mots étaient complètement interchangeables. Après ça, à chaque fois qu'on regardait du tennis, on complimentait les élégants chapeaux de paille des joueurs. Hannibal était un drôle de choix pour Amy, cependant, car je ne me rappelle pas que nous ayons passé un moment particulièrement agréable ou désagréable là-bas. Nous y étions allés une fois, voilà tout. Je me souvenais que nous nous étions baladés tranquillement, il y avait presque un an, en regardant les monuments, en lisant les pancartes et en disant « c'est intéressant », à quoi l'autre répondait « c'est vrai ». J'y étais retourné depuis, sans Amy. Ma tendance à la nostalgie était indestructible. J'y avais passé une journée splendide, une journée souriante, en paix avec le monde. Mais avec Amy, la visite avait été plate, machinale, un peu gênante. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à raconter une histoire niaise sur une sortie scolaire que j'avais faite ici, j'ai vu ses yeux se vider. Je suis rentré dans une fureur secrète et j'ai passé 10 minutes à me monter de plus en plus la tête. Parce que, à ce stade de notre mariage, j'étais tellement habitué à être en colère contre elle que c'était presque jouissif. Comme de ronger une cuticule. Vous savez que vous feriez mieux d'arrêter, que ce n'est pas aussi agréable que vous le pensez, en vérité, mais vous ne parvenez pas à arrêter. En surface, bien sûr, elle n'avait rien vu. Nous avions continué à marcher en lisant les panneaux et en nous désignant les trucs à voir. C'était un rappel assez terrible de la disette de bons souvenirs partagés depuis notre déménagement que ma femme soit forcée de choisir Hannibal pour sa chasse au trésor. Je suis arrivé à Hannibal en 20 minutes. J'ai dépassé le tribunal marmoréen datant de l'âge d'or, qui désormais n'abritait plus qu'un local minuscule dans son sous-sol, et longé une série de commerces qui avaient mis la clé sous la porte, des banques communautaires en faillite et des cinémas désaffectés, pour me diriger vers le fleuve. Je me suis garé dans un parking situé sur le Mississippi, pile en face du bateau de Mark Twain. Le stationnement était gratuit. Je ne manque jamais de m'extasier devant le côté inédit, la générosité des parkings gratuits. Des étendards à l'effigie de l'homme à la crinière blanche pendaient mollement aux lampadaires. Les affiches se ratatinaient sous l'effet de la chaleur. C'était un jour de semaine, une journée de fournaise, mais même ainsi, il semblait qu'Hannibal ne s'en sortait guère mieux que Carthage. Tandis que je marchais dans les quelques rues de boutiques de souvenirs, édredons, antiquités et caramels, j'ai vu davantage de panneaux à vendre. La maison de Becky Thatcher était fermée en vue de rénovation, qui n'avait pas encore trouvé de financement. Pour 10 $, on pouvait graffer son nom sur la clôture blanchie à la chaux de Tom Sawyer, mais on ne trouvait pas preneur. Je me suis assis sur le perron d'une boutique abandonnée. L'idée que j'avais emmené Amy à la fin de tout m'a traversé l'esprit. Nous faisions littéralement l'expérience de la fin d'un mode de vie. Une expression que je n'aurais jusque-là appliquée qu'à des tribus de Nouvelle-Guinée ou des communautés de souffleurs de verre dans les Appalaches. La récession avait signé l'arrêt de mort du centre commercial. Les ordinateurs avaient signé l'arrêt de mort de l'usine Blue Book. Carthage avait fait faillite. Sa ville-sœur, Hannibal, cédait le terrain aux sites touristiques plus bariolés, plus criards, plus caricaturaux. Le fleuve Mississippi se faisait dévorer à rebours par les carpes asiatiques qui remontaient le courant jusqu'au lac Michigan. L'épatante Amy, c'était fini. C'était la fin de ma carrière, la fin de la sienne, la fin de mon père, la fin de maman.
la fin de notre mariage, la fin d'Amy. Le sifflet fantomatique du vapeur s'est élevé du fleuve. Le dos de ma chemise était trempé de sueur. Je me suis forcé à me lever. J'ai repris l'itinéraire que nous avions emprunté, Amy et moi, comme si ma femme était toujours à mes côtés. C'était également une chaude journée. Tu es brillant. Dans mon imagination, elle marchait à côté de moi, et cette fois, elle souriait. Mon estomac s'est fait tout huileux. J'ai mentalement mené ma femme vers la principale attraction touristique. Un couple aux cheveux gris s'est arrêté pour jeter un coup d'œil à la salle d'audience du juge Thatcher, mais sans prendre la peine d'entrer. Au bout de la rue, un homme déguisé en Twain, cheveux blancs, costume blanc, est sorti d'une Ford Focus, s'est étiré, a regardé la rue solitaire et s'est engouffré dans une baraque à pizza. Puis nous y étions, à l'édifice en bardeaux qui avait été la salle d'audience du père de Samuel Clemens. Le panneau à l'entrée disait « J.M. Clemens, juge de paix ». Et volons un baiser, comme de jeunes mariés. Tu rends les choses tellement agréables, tellement simples, Amy. Comme si tu voulais vraiment que je les trouve pour faire du bien à mon égo. Si tu continues comme ça, je vais battre mon record. Il n'y avait personne à l'intérieur. Je me suis agenouillé sur le plancher poussiéreux et j'ai regardé sous le premier banc. Si Amy laissait un indice dans un lieu public, elle le scotchait toujours sous quelque chose, entre le vieux chewing-gum et la poussière. Et elle avait toujours raison. Parce que personne n'aime regarder le dessous des choses. Il n'y avait rien sous le premier banc, mais un rabat de papier dépassait du banc de derrière. Je l'ai enjambé et j'ai détaché d'un petit coup sec l'enveloppe bleue Amy, où restait accroché un petit bout de scotch. « Bonjour mon cher mari, tu l'as trouvé, tu es vraiment brillant. Et ça aide peut-être que j'ai décidé de ne pas faire la chasse au trésor de cette année une marche forcée harassante à travers mes souvenirs les plus ésotériques. » J'ai pris un indice chez ton très cher Mark Twain. Que devrait-on faire à l'homme qui a inventé la célébration des anniversaires? Le tuer, ce serait trop clément. Je le comprends enfin, ce que tu m'as dit année après année, que cette chasse au trésor devrait être un moment consacré à nous célébrer, pas un test pour vérifier si tu te rappelles tout ce que je peux penser ou dire dans l'année. On pourrait croire qu'une femme adulte s'en apercevrait toute seule, mais je suppose que les maris sont là pour ça. Pour nous montrer ce que nous ne parvenons pas à voir par nous-mêmes, même si ça prend 5 ans. Alors, je voulais prendre un moment sur la terre où Mark Twain a fait ses premiers pas pour te remercier pour ton intelligence. Tu es vraiment l'individu le plus affûté, le plus drôle que je connaisse. J'ai un souvenir sensoriel magnifique de toutes les fois au fil des ans où tu m'as murmuré à l'oreille « Je sens la chatouille de ton haleine sur mon lobe en t'écrivant cela », des mots qui n'étaient adressés qu'à moi, juste pour me faire rire. Quel mouvement généreux, je m'en aperçois, de la part d'un mari, d'essayer de faire rire son épouse. Et tu as toujours choisi le meilleur moment. Tu te rappelles quand Hinsley et son singe savant nous ont invités pour nous présenter leur bébé? On est allé à marche forcée dans cette maison étrangement parfaite, hyper chargée en fleurs et en muffins, pour bruncher et rencontrer le bébé, et ils étaient incroyablement moralisateurs et condescendants sur notre état de couple sans enfant, et pendant ce temps, il y avait leur petit garçon hideux, couvert de traînées de bave, de purée de carottes et peut-être de merde, tout nu, à part un bavoir à fanfreluche et une paire de chaussons tricotés, et pendant que je sirotais mon jus d'orange, tu t'es penché sur moi et tu m'as murmuré « C'est ce que je porterai tout à l'heure ». Et j'ai littéralement craché mon jus d'orange. C'était une de ces fois où tu m'as sauvé en me faisant rire juste au bon moment. Rien qu'une olive, cela dit. Alors laisse-moi le répéter, tu es spirituel. Maintenant, embrasse-moi. J'ai senti mon âme se dégonfler. Amy se servait de la chasse au trésor pour nous rapprocher l'un de l'autre. Mais il était trop tard. Pendant qu'elle écrivait ses indices, elle n'avait pas idée de l'état d'esprit qui était le mien. Pourquoi n'as-tu donc pas fait ça plus tôt, Amy? Notre timing n'avait jamais été bon.